bienvenue à Parlons des cancers du sang, un balado de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ce balado relie les personnes qui sont touchées par un cancer du sang à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu, puis il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes là pour vous apporter les informations dont vous avez besoin pour vous aider à comprendre chaque étape de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Stéphanie et je serai votre hôte invitée pour l'épisode d'aujourd'hui. En octobre 2019, donc à l'aube de mes 25 ans, j'apprenais que j'étais atteinte d'un lymphome hodgkinien du stade 2. Aujourd'hui, presque un an est passé depuis mon dernier traitement de chimiothérapie et je suis officiellement sur la voie de la rémission. Notre invité d'aujourd'hui, Pierre-Luc Grondin, un enseignant de biologie au cégep Champlain-Saint-Lawrence et un passionné de plaine. En 2012, à l'âge de 19 ans, il a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien du stade 2. Puis il a fait une récidive en 2014, à l'âge de 21 ans. Bien que plusieurs années soient passées depuis le dernier traitement et qu'il a maintenant complété sa rémission, le cancer a tout de même laissé des traces dans sa vie. Il va donc nous parler de son expérience et l'impact de la maladie dans sa vie actuelle. Bonjour Pierre-Luc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci de me recevoir. Et toi, comment ça va?
Oui, ça va très bien, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en commençant par l'annonce de ton diagnostic?
Oui, si je peux me présenter, là, maintenant 28 ans, je suis enseignant, comme tu l'as mentionné dans l'introduction, en biologie au cégep depuis 4 ans. Donc, j'ai fait mes études là, à l'université, baccalauréat, maîtrise en biologie. Et un passionné de sport, d'activité, d'implication, j'aime voir des gens aussi. Sinon, côté diagnostic, en fait, si on met plus l'emphase là-dessus, c'est en 2012, lors de ma première année d'université, c'est là que les premiers symptômes ont apparu en milieu d'année. Donc, une fatigue, une toux, plusieurs symptômes qui pouvaient être reliés probablement à d'autres choses aussi. Donc, rien pour me mettre la puce à l'oreille là, d'un lymphome. Première année d'université aussi, bon, la charge de travail était différente. Donc, c'était facile de trouver une raison pour un peu tout. Puis ça, ça m'a amené finalement à plusieurs mois d'attente jusque vers la fin là, de la première année universitaire où là maintenant, suite à plusieurs tests, j'ai pu avoir le diagnostic final là, qui était le lymphome hodgkinien. Donc ça, c'était en 2012. Puis comme tu l'as bien mentionné, en 2014, avec des suivis médicaux, on a pu voir là, que c'était revenu. Puis là, c'est là que j'ai entamé un deuxième tour de chimiothérapie avec une autogreffe. Puis là, depuis 2014, comme tu l'as aussi dit, la rémission est terminée après 5 ans, en fait, en 2019. Donc, ça va faire 7 ans, là, cet été.
Wow. Félicitations.
Ouais, je sais pas si on peut me féliciter pour ça. J'attends, comme tout le monde. Mais les années passent, mais bien content.
Une belle étape de passer. Je me souviens la dernière fois que tu nous avais parlé, là, tu mentionnais comme quoi que tu avais eu plusieurs effets indésirables pendant tes traitements. Puis encore aujourd'hui, là, tu vis avec quelques séquelles là, en lien avec les différents traitements que tu as eus. Peut-être si on peut commencer, par exemple, avec les effets indésirables que tu avais pendant tes traitements, puis par la suite avec ce que tu vis encore aujourd'hui en lien avec ça.
Ouais, je dirais en 2012-2014, donc j'ai différentes chimios, ça a été différentes expériences aussi, je dirais, au niveau effet indésirable. 2012, j'étais très, très, très malade. Donc, beaucoup d'effets secondaires de nausées. C'était des traitements une semaine sur deux. Donc, je dirais, les effets secondaires étaient très présents pendant la journée des traitements ou les quelques jours suivants. Donc, c'est là que j'avais une certaine fatigue, mais c'était pas si pire. C'était vraiment beaucoup des nausées. J'avais une bonne prise de poids, en fait, là, avec une espèce de rétention d'eau avec certains médicaments. Donc, cette variabilité-là dans mon poids d'une semaine à l'autre, au niveau articulaire, là, donc j'ai eu beaucoup de douleurs articulaires, les genoux, les épaules, les mains un peu, et des effets directement de la chimio, donc certaines toxicités au niveau du système nerveux. J'avais des étourdissements, on est obligé d'en arrêter quelques-unes. Donc, c'est vraiment la chimio qui m'a impacté un peu plus à ce niveau-là. Sinon, la deuxième semaine, j'étais quand même en forme, donc je sais que j'avais de l'énergie, j'étais capable de faire autre chose. C'était plutôt la quantité de médicaments que je devais prendre pour contrer les effets indésirables qui me mettaient un peu de côté là, pendant une semaine. 2014, ça a été vraiment le quelques chimios dans l'été, mais vraiment la semaine intense avant la greffe qui s'est soldée en fait par 3 semaines ensuite. Donc, c'est un mois à l'hôpital, une semaine de chimio, 3 semaines de récupération, si je peux me permettre. Puis là, ça a été vraiment, le système a été vraiment mis à terre. Donc, j'étais très, très, très fatigué. 10 minutes par jour, j'allais à pied avec mon soluté à l'autre bout du corridor, me chercher quelque chose dans le frigo, je revenais à ma chambre, puis j'étais prêt pour me faire une autre sieste. On partait de ce niveau-là, là, au niveau fatigue, mais beaucoup moins de douleur, beaucoup moins d'effets indésirables de la chimio. Mon cas était connu aussi, donc on savait comment un peu mieux les gérer. Mais je dirais que ça va être surtout ça pendant la chimio qui s'est passé. Là. Donc, un peu ce qu'on entend certaines fois, c'est ben plutôt des problèmes, des douleurs ou encore là des nausées. Mais il y a la fatigue, là, bien sûr. Donc, ça, je dirais que ça résume les grandes problématiques ou les grandes indésirables que j'ai eues.
Puis, si je me souviens bien, tu disais, me semble, pendant tes traitements, donc toi, tu as reçu ABVD aussi, je pense.
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux dire que, par exemple, bon, mis à part la journée même, puis quelques jours après, c'était difficile, est-ce qu'il y avait quand même une période là, de temps que où tu te sentais peut-être la semaine d'après, est-ce que tu sentais que l'énergie revenait? Là, je parle, par exemple, de ton lors de ton vraiment ton premier diagnostic là, de lymphome. Là, est-ce que tu avais comme un petit regain d'énergie là, entre les deux traitements ou...
Oui, certainement. Je dirais même que j'en ai eu 12 traitements sur 6 mois. Je dirais que les 3, 4, 5 premiers traitements, je sentais même l'énergie augmenter au fil des semaines. Un peu comme les masses cancéreuses disparaissaient tranquillement pas vite. Donc, j'avais moins les effets, disons, du lymphome. Mais graduellement, c'est l'accumulation de la chimio là, qui a commencé à se faire sentir. Donc, il y a comme eu un point de bascule où après la moitié des traitements, ben là, c'est plus certaines douleurs qui commençaient à sortir, mais côté énergie, il n'y avait pas trop de problématiques. Là. Par exemple, après le 10e traitement, la fin de semaine, juste avant le 11e, donc j'en ai profité, c'était la fin de semaine d'Action de grâce, un long week-end. Puis j'ai été aux États-Unis avec des amis faire le Mont Washington et le Mont Adams. On en a profité pour faire deux monts en une fin de semaine. Donc l'énergie était là. C'est sûr que les matins, les genoux étaient raides un peu, mais après ça, l'énergie, il n'y avait aucun problème.
Puis est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir continué à faire des activités physiques ou me semble de mémoire tu disais aussi que tu avais continué l'école, est-ce que tu penses que ça t'a vraiment aidé pour passer au travers là, de tes traitements puis du moins de cet épisode là qui était pas nécessairement
Certainement donc c'est sûr que l'école j'avais l'espoir de pouvoir garder mes 5 cours, là. Je commençais ma deuxième année à l'université. Je l'ai essayé, donc j'ai commencé à 5 cours. J'ai dû diminuer à 1 finalement parce que j'étais absent une semaine sur deux au final avec les traitements à cause des effets secondaires. Là. Donc normalement, ça dure un après-midi les traitements, mais dans mon cas, j'étais 3-4 jours après ça à la maison à dormir à cause des effets secondaires. Puis surtout des médicaments en fait, pour contrôler les effets secondaires, je devrais dire. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça m'a aidé de continuer à être actif la semaine où j'étais correct. Ça permettait de faire autre chose, en fait. C'est sûr que, bon, la semaine où je dormais, je voyais pas trop le temps passer, mais d'aller à l'école, ça permettait de voir des amis aussi. C'est sûr qu'il fallait que je fasse attention. On est immunosupprimés, mais c'est un cours de recherche que j'ai gardé. Donc, ça m'a permis de poursuivre, en fait, dans le stage que j'avais fait pendant l'été, pendant mes traitements aussi. Donc, et ce stage-là, finalement, de recherche, ce cours-là qui a duré jusqu'à l'hiver même, ça l'a préparé un peu le terrain pour mon sujet de maîtrise. Donc, j'ai fait ma maîtrise dans le même laboratoire. En fait, j'étais pas certain d'aimer la recherche, donc j'ai pu m'investir à 100% une semaine sur deux en recherche. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que j'adorais ça. Et ça l'a mené en fait aux prochaines étapes là, dans mon parcours scolaire. Donc vraiment, oui, l'implication étudiante, j'ai resté dans des associations étudiantes aussi, avec des postes peut-être moins demandants pendant ces années-là, ou ces mois-là du moins. Mais ça l'a pas empêché là, de... à distance, comme on le fait si bien ces temps-ci avec la COVID, d'être en ligne. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait là, il y a plusieurs années.
Puis, si tu dis que tu es vraiment une personne qui est très active, là, vélo de montagne, escalade, tout ce qui te font de ce que j'ai compris. Puis, de ce que je comprends, là, les traitements ont fait en sorte aussi que ça a été un peu plus difficile là, au niveau de la récupération, par exemple, là, quand tu fais peut-être des activités qui sont un petit peu plus intenses. Comment est-ce que tu as pu t'adapter, en fait, avec ta passion, la passion que tu as pour l'entraînement? Comment tu as pu t'adapter avec ta condition, là, si on peut dire comme ça?
Je dirais, j'ai eu des stratégies peut-être un peu différentes en 2012 puis en 2014. 2012, comme je disais tantôt, c'était plutôt la douleur ou plus que la fatigue en général. Donc, il y a certains sports qui allaient être... avec beaucoup d'impact, où la randonnée, ça allait, mais la course, bon, à court terme, pendant les traitements, j'avais peut-être diminué un peu. Je jouais au soccer depuis des années. Donc, depuis que j'avais 8 ans, en fait, j'ai joué au cégep, puis bon, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai même joué pendant mes traitements au début, puis là, pour me rendre compte que je commençais à être beaucoup trop fatigué au niveau cardio, là, j'avais un petit peu de la difficulté. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la rupture avec ce sport-là, je dirais. Mais j'ai quand même pu faire certains sports en respectant quand même un sport par jour ou une activité par jour. Jouer au volleyball avec des amis quand même, je joue au ultimate frisbee. Donc, il y avait moyen de faire du sport, mais plusieurs sports dans une même journée, c'était dur un peu là, sur les articulations. 2014, vraiment, la fatigue était très, très, très importante. Puis, comme j'ai resté un mois dans un lit à l'hôpital aussi, une bonne perte de poids, masse musculaire. Donc, ça l'a fait qu'il a fallu que je recommence très, très, très tranquillement. Bon, c'est relatif, on essaie de se contrôler, mais bon, l'enthousiasme était là, mais recommencer très, très, très tranquillement à refaire des sports. Puis là, c'est plutôt un peu dans cette lancée-là que je suis présentement de 7 ans, disons. Je vais aller avec des sports qui vont être un peu moins d'intensité, mais des sports plus d'endurance. Donc, je vais favoriser des fois une intensité un peu plus faible et des beaucoup plus longues durées. Et encore une fois, c'est d'alterner les sports pour pas, disons, surutiliser certains muscles ou certaines structures. Disons que c'est facile d'avoir une tendinite si je me lance trop rapidement dans un sport de manière trop intense. Certaines raideurs musculaires qui sont restées articulaires. Donc, j'arrête pas, je bouge pratiquement tous les jours, mais d'une façon différente. Certains sports, faut que je module un peu plus. Il y a quand même moyen de se dépenser. Puis en fait, pour certains sports, ou même en général, je pense que je suis dans la meilleure forme que j'ai été dans ma vie. Je pense, oui, j'étais peut-être plus intense avant les traitements en 2012, mais je pense pas que j'avais un cardio qui me permettait de faire de l'activité aussi longtemps que ça nécessairement. Ou même l'escalade, je grimpais pas aussi fort que je peux grimper présentement. Donc, il y a la technique, il y a l'expérience aussi qui s'accumule avec le temps. On vient qu'à balancer, puis j'ai quand même du plaisir à bouger. Je suis pas tout le temps en train de me dire, avant, je pouvais faire ça, je pouvais faire ça côté sport. J'ai l'impression que même au contraire, je vois, voici mon prochain objectif, je veux me rendre là, puis je suis encore capable de me booster puis de me dépasser. Là. Donc, à court terme, j'ai toujours même, je suis déjà en train de penser à mes objectifs pour le vélo de montagne de l'été. Donc, il y a toujours moyen là, de se challenger un peu, comme on dit.
Wow, c'est vraiment encourageant. Puis tu mentionnais, il me semble que tu étais toujours suivi en physiothérapie, fait qu'il y a toujours des gens qui te suivent quand même là, pour t'aider, j'imagine, à pouvoir continuer là, à pratiquer les sports que tu fais.
Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'avais peut-être pas le réflexe de faire ça quand j'étais jeune. Une petite douleur en disant ça va passer. Là, c'est sûr, bon, les années avancent aussi. Je regarde mes amis autour qui n'ont pas été malades nécessairement, puis qu'eux autres aussi, les petits bobos sortent. Donc, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Quand les douleurs arrivent, de pas trop attendre non plus. Puis justement, il y a des professionnels de la santé pour différents problèmes, en fait, dont la physiothérapie, dont l'ergo, kinésiologie, etc. Et je pense que c'est de pas se priver, puis en fait, de régler ça rapidement. Et ça me permet justement de régler certaines faiblesses musculaires ou puis de continuer à faire du sport là, plutôt que toujours me rendre à la blessure puis de devoir arrêter et plus jamais d'en refaire. C'est un suivi, je dirais pas un suivi de la part des professionnels de la santé, mais c'est un suivi personnel qui était un peu plus demandant, d'être un peu plus attentif à son corps, à l'écoute des petits signes de blessure ou d'usage. Mais il y a moyen de continuer sans problème là. Faire des étirements, ça fait partie de la routine maintenant.
Excellent. Dans un autre ordre d'idée, on peut dire que tu es un intellectuel, là, en fait, son bac en chimie, en biologie, ta maîtrise en biologie aussi. Tu avais parlé de peut-être continuer au doctorat. Puis, je trouvais ça intéressant dans le sens que tu as abordé la dernière fois qu'on s'est parlé là, au niveau de la concentration. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu plus, là, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont à l'école, qui sont aux études. De quelle façon, en fait, ça t'a affecté, si on veut, pour l'école ou si pour ta carrière de professeur? Puis, est-ce qu'il y a des stratégies que tu as développées là, qui t'aident, en fait, avec cette baisse de concentration-là? Corrige-moi là, si je me trompe.
Non, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je peux encore des fois me dire, avant, me semble, j'étais plus concentré ou que je vois vraiment une différence de l'avant à après. Ça varie dans le temps. Donc, c'est vraiment 2014, suite à des chimios un peu plus intenses, que j'ai vu des effets. des bons et des mauvais effets, disons, de cette baisse de concentration-là. Baisse de concentration, mais aussi des fois baisse de stress jusqu'à un certain point, où jusque avant un examen, avant j'étais peut-être un peu plus nerveux ou appréhensif. Maintenant, disons que j'arrivais à l'examen, peu importe le temps que j'avais passé à me préparer, j'avais le même niveau de stress, à peu près nul, en me disant je pense que je connais ma matière, ça va bien aller. Puis j'avais du plaisir pendant l'examen, à la limite j'apprenais. Puis donc l'attitude avait vraiment changé à ce niveau-là. Par contre, côté concentration, par exemple pendant l'étude, c'était difficile pour moi de rester concentré sur une chose pendant très longtemps. Donc, un peu toujours une impression de pas être certain d'avoir vraiment retenu la matière ou d'étudier, mais finalement, je la connaissais, mais toujours cette impression-là de, c'est comme s'il fallait que ça soit devant moi pour que je sois au courant que je connaissais la matière. Mais si je rangeais mes livres, c'est comme, est-ce que j'ai finalement étudié ça? Ou, donc, des fois, j'avais pas des pertes de mémoire parce que, je me rappelais bien ce que j'avais fait, là. Mais le sentiment d'être prêt ou d'avoir vraiment pu être concentré à certains moments puis être efficace, je l'avais moins ou peu. Ça l'a, par chance, pendant la maîtrise, avec l'implication étudiante, avec le sport, avec lire des articles scientifiques, rédiger, faire des analyses, j'étais capable de changer mes tâches journalières aux heures, aux demi-heures. Donc, quand je voyais que c'était un peu moins interactif ou que la concentration était moins là, je changeais de tâche. Puis finalement, c'est une façon que j'avais de régler ou en tout cas, du moins, de vivre avec là, cette nouvelle réalité-là. Puis, je dirais, j'ai frappé un autre mur en arrivant comme professeur au cégep où je pouvais pas nécessairement changer de tâche au bon vouloir en me disant, je vais travailler sur un autre projet ou autre. Si j'avais de la correction à faire, puis j'en ai encore, c'est de m'asseoir puis de faire ma correction. Ou de m'asseoir puis de dire, il faut que je fasse telle autre tâche. Des fois, ça peut impliquer de faire ça 10 heures de temps, mais je peux pas dire, après 2 heures, je vais changer parce que... Donc, oui, je le fais mieux présent. Ça fait 4 ans que j'enseigne, donc je peux alterner un peu plus. Je maîtrise peut-être un peu mieux la tâche d'enseignement que je la maîtrisais quand j'ai commencé. Donc, on apprend toujours. Mais oui, ça a été une des difficultés de rester concentré à faire une même chose. Si c'est interactif, il n'y a pas de problème. Mais si c'est très interactif dans le sens de la programmation, discuter avec quelqu'un ou ça, j'ai aucun problème. Par contre, si c'est vraiment d'être de la lecture ou de juste écrire ou corriger, c'est quelque chose qui va être un peu plus demandant. Pas au point où dire on n'est pas capable de faire la tâche, c'est juste de peut-être le briser en plus petits blocs. Puis trouver différentes façons aussi de des fois d'alterner entre les tâches, mais pas juste des tâches intellectuelles. Donc, au lieu de me dire, je vais aller faire mes exercices de physio le matin ou si j'en ai ou des étirements, puis en soirée, j'irai faire d'autres sports, des fois, je vais essayer de dire, à matin, j'ai un peu plus de temps, je vais couper ma séance de correction en deux pour faire une autre tâche, puis après-midi, donc j'alterne vraiment, j'espace un peu plus dans ma journée les différentes tâches, puis là, ça fait que je suis capable d'en faire un peu plus et aussi un meilleur sommeil. Donc, c'est quelque chose que je me suis rendu compte tout récemment, mais j'avais de la difficulté à dormir quand même beaucoup depuis la greffe, certaines fois. Donc, un sommeil moins réparateur, la récupération est un petit peu moins bonne. Et en étant plus fatigué, le jour, j'étais moins efficace, la concentration est un peu moins là, les tâches s'accumulaient, donc il y avait un peu tout ça. Donc, c'est vraiment d'être un peu plus discipliné à ce niveau-là pour dire, J'ai du plaisir, mais là, il s'en vient tard, il faut que je dorme ou je peux pas me permettre de me coucher dans le temps des fêtes, là, les parties de Noël qui finissent à 2-3 heures du matin, pas trop souvent, parce que sinon, ça va me prendre une semaine de m'en remettre. Puis le jour où je serai pas efficace. Donc, c'est vraiment tout ça à gérer. Mais je pense que chaque personne est différente aussi à ce niveau-là. Selon ce que j'aime beaucoup bouger. Donc, quand je vois que je suis fatigué puis je suis pas capable, ça me frustre personnellement. Parce que j'aime bouger. Donc, je vais un peu. M'organiser pour que mes actions, mes décisions soient en fonction que je peux continuer à bouger le lendemain ou autre. Mais pareil, si je sais que j'ai plus de tâches intellectuelles à faire, je vais essayer d'être mieux reposé pour avoir une meilleure concentration. Après ça, il existe peut-être d'autres techniques, il existe peut-être certaines médications ou autres, mais dans ma tête, j'en avais déjà pris assez. Je voulais essayer de trouver des méthodes, disons, propres à mon style de vie et à ma personne.
Je trouve ça super intéressant là, que tu abordes le sommeil. En fait, est-ce que tu sens que c'est comme si tu es revenu tout seul ou c'est vraiment, tu sais, c'est au fil du temps que tu as retrouvé un peu ta routine de sommeil dans le sens, au bout de quelques mois, quelques années, là, tu as senti que tu reprenais un peu tes anciennes habitudes ou c'est vraiment avec la discipline que tu te donnes présentement qui... Je sais pas si ma question est claire, là, mais...
Oui. Comment j'ai pu faire pour passer de « je dors mal » à « je dors mieux » Je dirais il y a un peu de la discipline. Donc, ça fait quand même presque 7 ans là, bon, que les traitements sont terminés. Je me suis dit que j'allais attendre pendant quand même quelques années. J'étais à la maîtrise, bon. Ça allait, je me dis, je vais essayer de le régler. Et puis là, après, dans le temps des fêtes cette année, en fait, j'ai reconsulté pour avoir vraiment un petit coup de pouce au niveau médication pour aider à dormir. Ça a pris l'espace d'une semaine ou deux, juste pour me repartir comme faut. Puis, tu sais, là, je prends absolument rien. En fait, c'était au besoin. Puis, ça a été au besoin pendant même pas 10 jours. Donc, c'était vraiment juste pour... J'avais tellement de fatigue accumulée que j'étais pas capable de reprendre. Comme je disais, les tâches s'accumulaient avec l'enseignement à distance. Donc, toutes les conditions n'étaient pas là, en fait, pour m'aider. Puis, juste en recontactant une équipe soignante, ça l'a fait que ça m'a donné le petit coup de pouce que j'avais besoin pour repartir. Puis là, maintenant, ben c'est garder aussi une certaine discipline. Donc, de pas trop me coucher tard, de lâcher. On est toujours sur Zoom ou peu importe quelle plateforme pour travailler. Donc, le temps d'écran est très très élevé à chaque jour. Donc, c'est vraiment de lâcher les écrans un peu plus tôt. Donc, il y a certains trucs comme ça que j'essaye d'être un peu plus discipliné. Mais maintenant, c'est vraiment juste de me discipliner. En fait, ouais, de m'assurer que je respecte là, un certain horaire. Puis une certaine régularité aussi, je dirais. Donc, pas se coucher tard un soir puis essayer de compenser en se couchant beaucoup plus tôt le lendemain. Tout ça. Donc, d'avoir vraiment un heure de coucher stable. En fait, ce qui est à la base recommandé là, d'avoir comme pour l'hygiène de vie, d'avoir quand même un rythme de sommeil très régulier. Mais pourquoi peut-être que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés avec en tant que problématique, le sommeil. J'étais pas quelqu'un qui avait besoin de dormir beaucoup. Par exemple, au bac, à ma première année, ou même au cégep, j'étais impliqué dans des associations dès ma première année d'université. J'étais dans une équipe de hockey pour la ville, je jouais au soccer pour le cégep donc il y a des fois j'étais dans deux équipes de soccer, une équipe de hockey, dans des associations étudiantes, tout en même temps. Donc je pouvais me coucher à 2 heures du matin, 6 heures j'étais levé, puis j'étais bon pour commencer j'ai fait ça pendant des années, donc 4-5 heures de sommeil par jour, c'était amplement suffisant. Maintenant, on parle d'un 8 heures, j'ai besoin, puis si j'ai pas mon 8 heures, je vois la différence. Donc ça a été aussi de me dire, là, il faut que je me discipline à me coucher tôt pour faire tout le reste. Mais moi, me coucher tôt, ça implique qu'il y a plein de choses que je faisais en soirée, là, je peux plus faire. Ça a été une autre adaptation. Mais sinon, autrement, donc tout va bien.
Excellent. Fait que de ce que je comprends, là, d'être vraiment plus à l'écoute, tu sais, ça t'a permis en fait d'être plus à l'écoute de toi-même, puis peut-être d'adopter aussi des habitudes de vie qui sont peut-être, on dit, plus saines là, au niveau du sommeil. Ce qui m'amène à te poser comme question, là, je sais souvent on voit les effets plus négatifs là, qui sont associés au cancer. Là, c'est sûr qu'il y en a plus que des positifs, mais je me demandais, est-ce que toi, il y a des aspects positifs que ça a pu t'apporter, comme par exemple certaines prises de conscience ou l'appréciation de certaines choses. Je me demandais, est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il y a eu des bienfaits entre gros guillemets là, ici? Là? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs à tout ça, du moins, dans ta vie?
Oui, je dirais oui, certainement. Comme tu l'as mentionné un peu, prise de conscience ou autre, surtout au niveau de, je me remets dans la, ça fait déjà beaucoup de plusieurs années, donc 2012, on parle de, ça fait 9 ans pratiquement. Le diagnostic est au printemps en 2012, donc ça va faire 9 ans là, au mois de mai pratiquement mon premier diagnostic. Je me remets dans la peau de quelqu'un de 19 ans qui est habitué de rouler à 100 000 à l'heure, qui se pose pas trop de questions sur qu'est-ce qui est peut-être plus important que d'autres choses. C'était je rentre à l'université, après un bac, je verrai ce que je fais, mais avec un bac en bio, je risque de faire une maîtrise, à moins que j'ai un emploi directement. Mais par la suite, j'ai dit ça va être le doctorat. Puis j'avais comme pas de je me posais pas trop la question. Je bûchais, comme on dit, je me baissais la tête puis je fonçais. Ça m'a forcé à mettre un peu les freins. Puis il me disait, le corps ne suit plus, la tête ne suit plus, malgré toutes les bonnes intentions, que ce soit par bout, plus long terme, moyen terme, donc ça variait. effet secondaire ou juste d'attendre la durée ou le fait que j'étais absent une semaine sur deux. Donc, ça m'a quand même forcé à me demander qu'est-ce que je voulais faire par la suite, qu'est-ce que je trouvais important versus des fois qu'est-ce qui est urgent ou qu'est-ce qu'on se fait dire qu'il faut faire ou que la masse fait, mais qu'on fait juste suivre le courant finalement puis on se pose pas trop la question. Donc, pour moi, avant à faire, par exemple, mon bac en plus de 3 ans, c'était inconcevable. Finalement, ben mon bac, je l'ai fait en 4 ans parce que j'ai pris une session de retard là, au premier diagnostic puis une deuxième au deuxième diagnostic. Donc, j'ai eu 1 an finalement de retard. Et à la deuxième fois, mais c'était même pas une grosse problématique. J'ai fait, bon, ben c'est revenu, tant pis, je sais dans quoi je m'embarque, puis go, on s'y remet. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense que ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était vraiment important, qu'est-ce que j'aimais moins ou ce que des choses qui étaient du superflu. Je pense que je le laissais de côté où je me sentais beaucoup moins coupable, en fait, peut-être d'en faire moins pour des choses qui étaient pas importantes. Tu parlais de être aussi appréciatif ou apprécier les petites choses de la vie. Déjà, je pense qu'à la base, ça m'en prenait pas beaucoup pour être heureux. Donc, je suis vraiment pas matérialiste. J'aime le contact humain, les expériences beaucoup plus que le matériel. Mais ça l'a juste renforcé ce sentiment-là ou ce point de vue-là. Un exemple très banal, mais pour moi, Noël ou ma fête, recevoir un cadeau, ça veut rien dire. En fait, pour moi, c'est quasiment une convention sociale où c'est un anniversaire ou c'est une fête dans le calendrier, on s'offre un présent, un cadeau. Je préfère beaucoup plus passer du temps avec des gens, des amis, faire une activité où ce qu'on va avoir des souvenirs, où ce qu'on va avoir du plaisir. Pour moi, ça vaut beaucoup plus qu'un cadeau monétaire, en fait, ou un cadeau matériel. Ça, c'est quelque chose, je dirais, que ça a probablement renforcé cette façon de voir les choses. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis. J'avais une bonne gang d'amis qui m'entouraient aussi 2012, 2014. Donc, tu sais, ça permet de renforcer des amitiés. Ça permet aussi, je pense, un coup de maturité. Donc, on l'a tout à un certain âge. Je pense pas que j'étais immature loin de là, mais à 19 ans, être confronté à un diagnostic de cancer, ça met les choses en perspective. J'ai vraiment voulu gérer ça un peu de mon côté, dans le sens où j'allais voir mon médecin toute seule de mon côté. J'étais très ouvert, donc peu importe mes parents qui me demandaient des informations, j'allais le dire, j'étais pas gêné, j'avais aucun problème. Mais j'ai voulu gérer ça toute seule, prendre en charge un peu la situation, réorganiser les choses. Donc ça, il y a des bons côtés à ce niveau-là, où ce qu'au final, j'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai environ 20 ans, je mets vraiment mon énergie dans ce qui me passionne, dans ce que j'aime, plutôt que de dire, ben j'ai fait ça pendant tant d'années, mais au final, pourquoi je l'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Ça veut pas dire de rien faire. Au contraire, je suis impliqué à plein de places encore. Puis j'aime donner du temps, j'aime aider les gens. Avec mes étudiants aussi, j'aime prendre le temps qu'il faut. Je compte pas les heures, rien. Donc, je pense pas que j'en fais moins. Je pense juste que je fais ce qui m'intéresse vraiment. En fait, là, ça devient un système de valeurs rendu là. C'est moins nécessairement de la logique, mais ça va être plutôt au niveau de qu'est-ce que je juge. En fait, j'aime contribuer, j'aime aider, donc je vais vraiment mettre mon énergie plus là, plutôt que de dire je dois accomplir des choses juste pour cocher dans la liste. Oui, donc je dirais vraiment de le côté positif, ça va être vraiment plus ça. En fait, même encore aujourd'hui, j'essaie de. Un peu avec ce balado-là ou avec la Société de l'info et leucémie Canada, donc différents programmes d'aide, programmes par les pairs ou à certaines visites dans les hôpitaux, la marche illumine la nuit. Donc, j'essaie de redonner aussi. Donc, le côté positif, en fait, d'avoir un diagnostic peut-être passe au travers, c'est que maintenant, je peux peut-être, en tout cas, je l'espère aider ou accompagner certains patients, proches aidants ou autres, des gens qui ont des questions ou redonner pour la recherche tout simplement. Donc, c'est une autre façon, en fait, c'est une autre perspective qu'on a, qu'on n'a pas passé au travers de tout ça. Puis, je me dis, j'ai envie d'aider, j'ai une certaine expérience que je souhaite à personne d'avoir sur son CV, mais si je peux l'utiliser, tant mieux. Ouais.
Merci tellement, Pierre-Luc, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler. C'était super intéressant comme rencontre. Si les auditeurs ont des questions sur comment accompagner une personne atteinte d'un cancer du sang ou ont besoin d'aide pour naviguer dans leurs propres expériences avec un diagnostic de cancer du sang, on vous encourage à contacter le chef des services à la communauté de votre région. Donc, visitez lecancerdusang.ca pour communiquer avec nous. Merci à la Fondation TELUS pour un futur meilleur d'avoir généreusement parrainé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
la série de balados « Parlons des cancers du sang » de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver partout où vous vous procurez vos balados préférés. Assurez-vous de vous inscrire et de laisser un commentaire. Si vous avez des idées de balados, n'hésitez pas à nous en faire part. Envoyez votre courriel à canadainfo@commercialls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre à financer des recherches de pointe et à appuyer les personnes touchées par un cancer du sang. Pour accéder à des ressources comme des fiches pratiques et des webdiffusions, visitez cancerdusang.ca.